Un projet de loi sur la santé au travail devrait naître d'ici l'été 2019, une annonce de la ministre du Travail Muriel Pénicaud faite à l'automne 2018. Alors, mesure de la pénibilité au travail, stress en entreprise sont quelques-uns des enjeux majeurs, ainsi que l'augmentation chaque année du coût lié aux arrêts de travail, c'était 7 milliards d'euros en 2017. C'est la caisse primaire d'assurance maladie qui supervise l'indemnisation de l'assuré en cas de pathologie physique ou liée à la santé mentale, de maladies professionnelles, d'accidents du travail ou encore de grossesse. Et la Bretagne s'avère être une des championnes françaises en matière d'arrêt de travail, en nombre et en durée. Et en y regardant encore de plus près, le Finistère est en tête de classement. Pour comprendre pourquoi et adopter un regard critique sur un sujet sensible et récupéré politiquement, il faut s'intéresser aux spécificités territoriales en matière de système de santé, ainsi qu'aux mutations du travail qui ont vu apparaître de nouveaux mots, avec une reconnaissance et des prises en charge qui bougent elles aussi. Il faut sans doute aussi aller écouter le prescripteur, le professionnel de santé, raconter le geste que constitue la prescription d'un arrêt de travail sous le contrôle grandissant de la sécurité sociale. Un arrêt de travail qu'on ne peut détacher enfin de celui qu'il demande, l'assuré. Un acte qui résulte en somme d'un processus de construction sociale parfait à étudier pour un sociologue. Et quand le sujet de la santé au travail se mêle au secret défense, c'est le second sujet que nous allons aborder dans l'émission. Dans la rade de Brest depuis les années 1970 et encore aujourd'hui, l'île Longue est le port base de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. À partir des années 2000, des décès parfois foudroyants ont été constatés et des maladies difficilement reconnues comme professionnelles. Un travail de recherche est en cours à la rencontre de 72 anciens salariés du civil qui y ont travaillé. Premiers éléments d'enquête tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Jorge Muñoz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale, également chercheur au laboratoire d'études et de recherche en sociologie dans l'équipe Mutations contemporaines du travail. Et vous êtes un spécialiste, entre autres, de la sociologie du travail et des risques professionnels. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Selon les statistiques de l'assurance maladie, la Bretagne détient un drôle de record. C'est la région où l'on enregistre davantage d'arrêts de travail en nombre et en durée que partout ailleurs. Et à l'intérieur de cette région, c'est le Finistère où la situation est la plus aiguë. Jorge Muñoz, vous venez d'achever une étude très fouillée sur ce sujet. Quelles sont les caractéristiques socio-économiques et culturelles qui expliquent ce phénomène arrêt du travail?
Oui, alors effectivement, donc la région de Bretagne, depuis très longtemps en fait, ça fait déjà plus de 25 ans qu'il connaît cette situation. Et à l'intérieur de la Bretagne, effectivement, les Finistères. Alors, c'était une étude qui a été réalisée collectivement, donc auquel j'ai coordonné, donc, notamment avec Gabriel Lecomte Ménès, qui est actuellement postdoc à Rennes 1. Et pour répondre d'une manière un peu simplifiée donc, à votre question, en fait, on a constaté, et par rapport à d'autres travaux qui ont été faits en la matière, que dans les cas du Finistère, il existait un certain nombre de particularités territoriales, et notamment dans les centres du département, hein, donc pour vous donner quelques indices, hein, donc SCAER, Carré, donc Ouelgat, un peu Crozon, enfin bref, donc des communes qui ont des réalités donc territoriales sur lesquelles je pense qu'on oui. reviendra pour pouvoir expliquer donc un peu en détail donc cette situation un peu particulière, ces records, donc on va dire, donc du Finistère à l'occurrence.
Vous pouvez donner quelques chiffres pour situer le Finistère par rapport à la Bretagne et par rapport
bien sûr.
À la France.
Alors justement, donc il faut savoir que la question des arrêts de travail est devenue une question donc extrêmement délicate, on va dire, donc pour les politiques publiques, notamment des maîtrises donc de l'assurance maladie, du fait que dans les arrêts de travail, il faut savoir que on compte, donc pour que vous compreniez un petit peu, on va mélanger les arrêts au titre maladie.
Oui.
Et les arrêts au titre risque professionnel, c'est-à-dire accident du travail, maladie professionnelle. Donc quand on prend donc, ces arrêts-là, donc, tout confondu, on va constater qu'en Bretagne, par exemple, vous avez grosso modo en moyenne donc, à peu près 3 ou 4 jours donc, au D+, donc, que le reste donc, de la France. D'accord. Pour les Finistères, donc, plus particulièrement, quand on prend la moyenne par rapport donc, au reste donc, de la Bretagne, les Finistères se retrouvent à avoir, par exemple, en moyenne 48 jours donc, d'arrêt, donc, ouais. Maladie, alors que, par exemple, en moyenne, dans le département, on est autour des 40 jours. Donc ça, c'est pour les durées, donc, mais ça a aussi un effet sur les coûts. Également. Et là, nous, quand je dis nous, l'équipe donc, avec laquelle oui. je travaillais, donc, on a quelques nuances apportées, par exemple, au rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les arrêts de travail. Oui. Il faut savoir que donc, sur le volume total des arrêts de travail, plus de 80% des arrêts de travail, c'est pareil pour la Bretagne et pour les Finistères, ça, il n'y a pas des singularités. Donc, plus de 80% des arrêts de travail, aux alentours, ce sont des arrêts de travail courts. Donc, c'est-à-dire qui dure 15 jours, moins de 15 jours, oui. etc. Et ces 80% donc, pèsent à peine, des mémoires, à peu près 17% donc, du coût. Voilà. Donc, ce sont les arrêts longs, donc, qui dépassent donc, les 15 jours, les 30 jours, 6 mois, donc, des arrêts, qui coûtent donc, les plus chers parce qu'ils représentent donc, presque 70% donc, du coût, etc. Et ça, c'est valable pour la France, pour la Bretagne et pour les Finistères. Mmh. Et dans les arrêts longs, ceux qui coûtent les plus chers, ce sont les arrêts donc, au risque professionnel, accident du travail, et particulièrement les maladies professionnelles. Et c'est le cas donc, aussi donc, dans les Finistères, et de manière plus accentuée que les autres départements.
Donc, quel type de maladies professionnelles vous pointez ?
Alors, à l'occurrence, dans l'étude qu'on a conduite ensemble, eh bien, il y avait une demande et un constat déjà, on va dire, des médecins et de la caisse, notamment primaire d'assurance maladie du Finistère, qui consistait à dire qu'ils avaient une remontée de la part des médecins, notamment sur deux types des diagnostics. Tout ce qui tourne autour des troubles psychosociaux et tout ce qui tourne autour des troubles, on va dire, squelettiques. Donc tout ce qui est TMS, comme on dit, troubles musculo-squelettiques. Ça, c'était les deux remontées les plus importantes qu'ils avaient souvent des personnes qui venaient les consulter pour ces problèmes-là et qui étaient un peu, ils ne savaient pas trop comment faire. Et en fait, avec l'analyse statistique qu'on a réalisée, hein, conjointement avec la caisse d'assurance maladie, il est ressorti, effectivement, donc, ces deux risques de manière prépondérante, mais également lorsqu'on a tiré au hasard, justement, médecin et assuré, pour aller les voir, il s'est retrouvé qu'on est tombé aussi sur ces deux risques-là, donc troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux.
Christian Lebar.
Alors, est-ce qu'on peut mettre en relation cela avec des activités professionnelles ou avec ou est-ce que ce sont des arrêts de travail liés au hors travail ? Quelle est la part de l'un et de l'autre ?
Alors, c'est une question donc, qui n'est pas facile à répondre parce qu'il y a eu des tentatives faites pour essayer de donner un pourcentage en fait dans les arrêts de travail, de dire combien c'est dû au travail, combien c'est pas dû au travail, etc. Les rapports, celui qui a été notamment rendu donc, au Premier ministre donc, récemment, essaye en fait, en se basant sur l'enquête de l'assurance Malakoff, de dire qu'en fait les arrêts de travail d'origine professionnelle ne représentent que 9%. Alors, et là il fait un amalgame justement comme je vous disais tout à l'heure avec tous les arrêts de travail, c'est-à-dire les rhinites, les rhumes, etc. Donc, pour répondre à la question, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les arrêts longs. Donc, ouais. Qui justement pèse donc, financièrement, pas les courts, vraiment les longs. Et dans les longs, on va trouver bien sûr les longues maladies, hein, par exemple les cancers, donc, également, mais pas tous les cancers sont d'origine professionnelle, mais il y en a, donc ça extrême. Mais on va trouver donc, aussi donc, les troubles musculo-squelettiques et les APS. Alors, sur les troubles musculo-squelettiques, d'après donc, l'étude qu'on a faite, il y a une certaine connaissance de la part des médecins généralistes, hein, donc traitants, notamment et spécialistes, sur ces types de maladies. Et donc, assez, pas automatiquement, mais ils vont faire un peu le lien avec les travails pour justement conduire l'occurrence, les assurés vers une prise en charge, voire une reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, pour les troubles donc, psychosociaux, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Les liens n'est pas fait automatiquement, Donc, premièrement, c'est-à-dire qu'ils vont minorer un tout petit peu ou ne pas aborder cet aspect-là des choses. Et lorsque c'est abordé, comme vous le savez, il n'y a pas de tableau de reconnaissance de tous les psychosociaux, et ce qui rend donc la démarche extrêmement difficile. Hein. Ça existe, il y a une voie un peu particulière pour le faire, qui c'est ce qu'on appelle les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, CRPP, auquel on peut faire appel quand les tableaux n'existaient pas, c'est l'alinéa 4, au titre donc des maladies donc à caractère professionnel. Donc on peut justement faire. Et effectivement, quand on regarde le bilan de cette commission hein, au niveau régional, on va retrouver toujours les troubles musculosquelettiques et une part de plus en plus importante des risques psychosociaux qui sont reconnus à ce titre-là. Donc il existe donc ces liens. Il n'est pas fait automatiquement, mais les médecins donc on rencontre vraiment une réelle difficulté pour essayer d'avancer sur ces points-là et aboutir donc à en tout cas une prise en charge au titre professionnel.
Mais ça, c'est dans quelle sorte d'activité
Alors, oui. Donc, pour les activités, en fait, pour les assurés sociaux, en fait, on a réalisé une analyse de correspondance multiple, donc, qui permet, en fait, de profiler donc, les assurés en fonction du type d'arrêt. Donc, on a notamment défini trois grands groupes. Donc, vous avez un premier groupe composé essentiellement des femmes, donc, qui travaillent dans le secteur, notamment, social, de la santé, médico-social notamment. Vous avez un deuxième groupe essentiellement...
Et qui ont quelle pathologie alors ?
Alors là, justement, pour ces premiers groupes, on retrouve notamment donc, les TMS.
Les troubles musculo-squelettiques.
Voilà, donc notamment dans ces groupes-là. Dans le deuxième groupe, donc, qui est plutôt masculin, on va trouver une représentation plus importante des accidentés du travail. Donc des maladies professionnelles, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais plus représenté, et dans les troisième groupes.
Et les hommes, là, le deuxième groupe, c'est plutôt des activités, des métiers plus physiques
C'est essentiellement l'agroalimentaire, la construction et les transports. Très concrètement, par exemple, des hernies discales, qu'on retrouve souvent chez les chauffeurs, par exemple, des bus ou des transports. Et enfin, la troisième groupe, donc les assurés, donc, qui sont un tout petit peu plus âgés que les deux premiers, plus des femmes également, mais souvent en longue maladie. Hein. Et donc là, on va retrouver parfois des polyaffections, donc des cancers, on est tombé sur quelques cancers. Et les secteurs, donc là, on est plus des secteurs qui sont représentés, je ne dis pas des sottises, c'est donc les services, mais également le service à la personne, entre autres. Donc on retrouve en fait, grâce à notre typologie, on retrouve en fait les grands traits en fait que l'on constate au niveau régional et national sur les statistiques, en l'occurrence, des maladies professionnelles, accidents du travail ou maladies tout court.
Christian ?
Alors, peut-être pour élargir un petit peu le débat, quand on parle des arrêts de travail, c'est un sujet tout à fait passionnant, mais qui génère des représentations assez, assez fantasmatiques, et dans les deux sens, c'est-à-dire si je prends appui sur tout le débat public autour des arrêts de travail, il y a évidemment d'un côté un discours du type « c'est une plaie en particulier à la française », c'est-à-dire les Français sont toujours en arrêt, il y a des médecins complaisants, d'ailleurs il y en a une qui vient d'être rappelée à l'ordre, là j'ai entendu ça aux informations il y a quelques jours, donc voilà, il y aurait de l'abus. Et puis on a aussi le discours absolument inverse, qui est de dire que du fait des tensions sur le marché du travail, de la crainte du licenciement, etc., les salariés refuseraient les arrêts, continueraient à aller travailler alors qu'ils ne sont pas en état, ce qui au passage produirait des effets absolument catastrophiques, puisque ils sont contagieux dans le cas des grippes ou des choses comme ça, et ils ne sont pas performants. Alors entre ces deux visions que j'ai un peu caricaturées, mais disons l'une bienveillante et l'autre plus critique, est-ce que l'étude permet de dire des choses ?
Alors là, vous pointez les cœurs un tout petit peu de notre étude, puisque ce qu'on a constaté, en fait, dans la littérature, on va dire, scientifique, hein, qui est sur la question, elle est partagée entre les épidémiologistes, sociologues, économistes, praticiens aussi, beaucoup de médecins, donc leur travail des fins d'études, des mémoires, donc thèses, donc des pratiques, donc portent donc sous les arrêts de travail. Et c'est un paradoxe justement parce que pour les médecins notamment traitants, dans les études médicales, en fait, cette question de la pratique, c'est-à-dire prescrire des arrêts, qui est une pratique quotidienne. Donc, une consultation sur 6 donne lieu à un arrêt de travail. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement quotidien pour les médecins. Eh bien, on l'aborde pratiquement pas pendant les études. Donc, tout ce qui concerne donc, les dimensions juridico-administratives, médico-légales, sont très peu abordées donc, là-dessus. Donc, tout ce qui concerne la sécurité sociale, les risques professionnels, des mémoires, un professeur des pathologies professionnelles m'a dit que c'est 3 heures en 6 ans. Quoi. Donc, c'est rien. Rien du tout. Or, les médecins, donc notamment traitants généralistes, sont confrontés quotidiennement à ça. Ce qui fait que l'idée que nous avions, c'est de dire qu'en fait, la prescription d'un arrêt résulte d'une construction, d'un processus qui s'inscrit dans des configurations particulières sur des territoires précis, donc avec leurs caractéristiques, et qui vont justement, contrairement à ce que l'on pense, intervenir peu ou prou dans cette colloque singulier qui est celui justement qui va retenir donc un assuré et puis un médecin. Et donc effectivement vous avez actuellement une politique qui essaye d'identifier les médecins qui prescrivent trop, donc puisque donc il y a des objectifs, donc on est maîtrise donc des dépenses, comme aussi pour les assurés également.
Concrètement, les médecins ont un quota à respecter.
Alors, c'est pas qu'ils soient en quota, mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. La mise en place de la carte vitale, entre autres, a permis plus facilement de tracer donc l'activité des médecins généralistes libéraux, ce qui permet concrètement à l'assurance maladie de manière régulière, hein, donc de leur envoyer donc un petit tableau, hein, une sorte de tableau des bords, en disant voilà. Les mois derniers, par exemple, vous avez atteint les objectifs donc de santé publique, hein, qui sont fixés au niveau national, oui. Et pour la région de Bretagne, pour le Finistère. Donc, vous êtes bon, vous êtes pas très loin, vous êtes trop loin, etc. Par exemple, la prescription des antibiotiques, pas trop d'arrêt de travail. Enfin, bref, il y a une série d'objectifs. Et en fonction des résultats, les médecins peuvent avoir des récompenses, ouais. Donc là-dessus. Donc, ceci étant dit. Quand justement ils ne sont pas dans les cordes, dans les clous, là vous avez toute une procédure qui s'enclenche mais qui est progressive et qui peut aller jusqu'à la convocation, voire donc, carrément déconventionner, mais ça c'est extrêmement rare, donc les médecins. Et donc on pointait les médecins.
Les médecins généralistes du syndicat MG France dénoncent les procédures de contrôle de prescription des arrêts maladie. Objet de la grogne notamment, l'envoi d'un courrier qui comptabilise le nombre d'arrêts prescrits.
Extrait d'un reportage, c'était en juillet 2017 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc c'est cette caractère des contrôles de l'assurance maladie, qui est quelque chose en fait qui est un peu ambivalent, parce que l'assurance maladie contrôle des dépenses publiques, c'est tout à fait logique et normal. Donc, on ne peut pas accepter, par exemple, comme il fut un temps, que des spécialistes facturent une double consultation alors qu'elle n'en a eu qu'une, par exemple. Donc, l'assurance maladie doit veiller. Alors, ceci étant dit, là, et ce que nous on montre donc, dans notre étude, c'est que parmi donc, les médecins, qui justement dans les profils que l'on a fait des médecins, cette fois-ci avec une CP, une analyse de correspondance, donc pas multiple mais principale, donc, parce que les variables étaient plus quantitatives, hein, bref, on arrive donc à un profilage donc, des médecins, en 3 grands groupes, et bien sûr, on a le groupe des médecins qui est les plus forts prescripteurs. Et ces médecins, où se trouvent-ils? Ils se trouvent justement dans les zones les plus défavorisées, en l'occurrence du Finistère, là où la densité médicale est la plus forte, Là où justement l'implantation des entreprises agroalimentaires, les secteurs médico-social notamment, qui est très pourvoyeur et très contribue beaucoup justement aux accidents du travail, des arrêts maladie, se trouve plus pressant aussi. Et là, on se trouve les plus éloignés des spécialistes et des centres d'examen, par exemple, pour faire un scanner ou un autre diagnostic. Et ce sont ces médecins-là qui sont plus âgés, donc proches de la retraite, qui ont une population aussi en moyenne plus âgé et donc qui a des arrêts que l'on sait quand il les prend plus longs. Donc bref, donc on est en train de pointer des médecins en fait qui du fait de leur pratique oui. et leur contexte en fait, entre guillemets, ils n'ont que peu de marge de manœuvre en fait. Oui. Hein, donc pour faire ça. Et des côtés des assurés, donc pour répondre à l'assuré qui essaye de voir, enfin en tout cas dans l'étude on n'a pas observé d'assurés, qui trichent, hein, même si on peut employer ce terme-là. En revanche, mais là, il faudrait que je rentre dans les détails, parce qu'effectivement, il existe cet dilemme, hein, et c'est des choses qu'on a analysées dans les rapports, des assurés qui devraient s'arrêter. Même le médecin leur dit, vous devez vous arrêter, et qui continuent donc, à travailler. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas laisser leurs collègues, parce qu'il y a quelque chose d'important au travail, etc. Ouais. Et comme de même, donc des assurés dont on pense qu'ils devraient revenir, mais son état de santé, comme ils se projettent donc, par rapport à la reprise du travail, c'est complexe et donc ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc là, on a une série aussi de résultats. Donc, bon, il faudrait que je donne des détails. Mais...
Je voudrais bien que... Tout ce qui se joue dans un arrêt de travail, ça concerne bien sûr l'assuré, bien sûr le médecin prescripteur, qu'on voit, vous avez commencé à en parler, côté patient. Vous avez dit des gens qui ne culpabilisent par exemple de partir, d'avoir plutôt un arrêt de travail parce que surcharge de travail pour leurs collègues, mais aussi pour le retour, est-ce que le poste de travail est bien aménagé, etc., etc. Parler de c'est pas neutre un arrêt de travail dans la vie quotidienne, la vie familiale, la vie professionnelle.
Oui, alors effectivement, surtout si on parle, comme je vous disais tout à l'heure, des arrêts qui sont longs. Mm. Hein, donc on ne parle pas des petits arrêts d'une semaine ou deux semaines. Donc on parle des arrêts de plus de 30 jours, 6 mois. Donc c'est surtout, ça arrive voire un an. Donc on a... Alors, et là-dessus, sur cette question, il y a plusieurs choses. La première, qu'effectivement, quelle que soit l'origine, hein, maladie ou risque professionnel de l'arrêt, surtout s'il est long, il va se traduire chez l'assuré pour une série de questionnements, en fait. Parce qu'il s'éloigne effectivement du lieu du travail, donc, et à terme, donc, ça questionne, en fait, pour lui, hein, donc, sa capacité de revenir, dans quelles conditions il va revenir. Quand il reviendra, comment ça va se passer, est-ce que je pourrais reprendre de la même manière, physiquement, psychologiquement, etc. Et c'est là qu'on a constaté, et qui est un lien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une partie des médecins traitants sont dépourvus donc, face à ces situations-là. C'est-à-dire que, par exemple, certains ne connaissent pas donc, les dispositifs auxquels ils pourraient faire appel, par exemple le médecin conseil, le médecin du travail, donc, pour coordonner progressivement et préparer donc, ces retours donc, au travail, donc, à l'emploi, donc, à son activité. Ils méconnaissent aussi les dispositifs d'aide qui peuvent être proposés donc, par l'assurance maladie. Par exemple, si on est en accident du travail, maladie professionnelle, on peut faire appel à ce qu'on appelle les contrats de rééducation professionnelle, qui est un dispositif qui est pratiquement inconnu donc des médecins, donc, mais par contre très connu des médecins conseils, médecins du travail. Donc bref, ça, effectivement, ça, parce que la personne se questionne donc, sur ses capacités, etc. Après, il y a un autre élément qui rentre en ligne des comptes, c'est la position sociale de la personne. Donc l'assuré, s'il est cadre, s'il est employé, s'il est ouvrier, etc. Les rapports par rapport à l'arrêt de travail, la durée et son retour, bien sûr, n'aura pas le même sens. Alors, je vous donne l'exemple le plus paradigmatique qu'on a trouvé donc, dans notre étude. Il s'agit d'un cadre qui souffrait des problèmes des tendinites. Il faisait très bien les liens avec le travail, Il n'a pas fait des déclarations de maladie professionnelle, mais travaillant dans une grosse entreprise du secteur bancaire, il a demandé donc des aménagements à son poste. Donc parce qu'il connaissait, il s'est renseigné, etc. Donc tout ça, ça a été fait. Mais en même temps, il voyait que donc le problème continuait et qu'il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il passe par une intervention chirurgicale pour y remédier. Mais cette intervention, il l'a pas faite n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire qu'il a identifier les bonnes spécialistes, les bons moments de l'année, donc où l'activité donc était la plus faible pour les faire. Et donc c'est quelqu'un qui
dans son entreprise.
Dans son entreprise. Donc c'est quelqu'un, on va dire, du point de vue attention à ce que je vais dire, c'est pas que l'assurance maladie a dit ça, mais il rentre dans les clous exactement de ce qu'attend la sécurité sociale au sens où il est fait avec les bons spécialistes, la bonne durée est respectée et il reprend le travail la bonne durée.
Comme les enseignants qui se font opérer pendant les vacances.
Par exemple.
Ou qui accouchent en juillet.
Par exemple. Et c'est dans les cas, l'espèce d'ailleurs, il a fait à l'occurrence fin août parce que c'est la période donc la plus
calme
donc pour son activité.
Dans la banque.
Et, à l'occurrence. Donc on a affaire là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui, du fait de sa position, des ressources mobilisées, des connaissances, c'est quelqu'un aussi qui a court-circuité les médecins traitants généralistes, c'est-à-dire il allait directement à les spécialistes. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que c'est les médecins traitants généralistes qui représentent 80% des arrêts de travail, hein, c'est eux qui prescrivent. Donc il y a une division du travail entre spécialistes et médecins traitants qui est très importante. À l'inverse, donc, on a le cas d'un autre assuré, un accident du travail puis maladie professionnelle qui travaille dans l'agroalimentaire et extrêmement donc, actif pendant son arrêt de maladie, hein, au sens où il cherche des informations, il va voir l'instance sociale, il s'est renseigné auprès de la sécurité sociale. Donc c'est quelqu'un qui veut faire les choses, qui anticipe aussi les problèmes, mais qui se heurte justement aux limites et aux contraintes de son activité. Par exemple, on a fait disparaître son poste aménagé, on ne lui donne plus de possibilités, il va faire des bilans de compétences, on lui dit qu'il faut qu'il devienne avocat ou architecte. Donc il se retrouve donc, face à des situations, malgré toute sa bonne foi et puis son envie donc de s'en sortir.
Vous avez évoqué par allusion une variable qui est la variable densité médicale. Alors est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que les territoires qui sont frappés par la désertification médicale, et on sait que c'est pas rien dans la France d'aujourd'hui, sont aussi du coup des territoires qui produisent moins d'arrêts de travail, en particulier dans un contexte où il est parfois plus compliqué d'aller voir un médecin, d'aller au travail, et où c'est parfois ça demande plus d'énergie. Est-ce que vous avez trouvé trace de cette variable-là?
Alors effectivement, dans la littérature, par exemple, plusieurs auteurs montrent les liens qu'il y a entre une densité médicale plus importante, par exemple, et une multiplication des arrêts. Mais la littérature est contradictoire aussi, donc il y a des études qui montrent le contraire. Nous, dans notre cas, des figures, donc en Bretagne, et particulièrement dans les Finistères, ce qu'on a constaté, c'est, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est que dans les zones, notamment du centre du Finistère, grosso modo, parce que c'est là où se trouve la densité médicale la plus faible, et pourtant c'est là où on observe aussi donc, les nombres des arrêts de travail les plus importants et les plus longs. Du fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à une population qui n'a pas trop le choix en fait en termes d'offres donc des médecins, et on s'est posé la question, mais c'est quelque chose qui reste au stade hypothétique, de se dire qu'en fait les médecins étant extrêmement sollicités parce qu'ils sont peu nombreux donc par leur patientèle, une patientèle aussi qui en moyenne est plus âgée également, qui travaille mais qui est plus âgée, donc où les questions des usures professionnelles peuvent intervenir également, eh bien les médecins peuvent se trouver dans une situation dans laquelle il est contraint, il n'a pas le choix, et donc parfois il peut aller vite, donc sans essayer d'analyser un peu plus finement donc les cas à l'occurrence. Alors que dans les zones donc, où c'était plus dense, donc où l'offre des médecins, par exemple, est plus proche des zones urbaines, donc en l'occurrence Brest, Quimper, pour vous citer juste les deux plus grandes villes donc, du Finistère, là, au contraire, donc, on n'était pas dans les mêmes dynamiques et on n'était pas non plus dans des arrêts très longs, ni en moyenne, ni par patient, en l'occurrence, par rapport aux autres zones. Donc, à partir de ces résultats-là, nous, on peut nuancer un tout petit peu cette idée de que la densité en fait médicale joue de manière mécanique en fait sur cette question là des arrêts de travail.
Mais vous disiez la surcharge de travail pour certains médecins dans certaines régions, mais peut-être pour tous aussi la difficulté d'évaluer la pathologie. Une phrase qui m'a frappé, plusieurs phrases m'ont frappé dans votre rapport, ce que disent les gens. Des patients qui disent au médecin, mais vous n'imaginez pas mon poste de travail, vous ne savez pas du tout comment ça se passe. Ou certains, toujours vos citations dans le rapport que vous avez fait, là en revanche des médecins qui parlent de l'horreur de certaines chaînes d'abattoirs, et c'est compliqué, les médecins ils ne sont pas censés non plus connaître absolument tous les postes de travail, toutes les ambiances de travail aussi, enfin, etc. Donc c'est compliqué ça, à jouer.
Oui.
Pour un médecin.
Pour un médecin, donc on parle là, notre étude est portée notamment sur les médecins donc, généralistes, donc spécialistes aussi, donc des médecins libéraux. On n'a pas travaillé sur les médecins des établissements parce que, en fait, à part d'arrêt de travail, donc ils font peu des prescriptions et puis c'est extrêmement compliqué de les identifier. Mais effectivement, pour un médecin qui exerce dans son cabinet, comme je vous disais tout à l'heure, déjà en termes des connaissances sur ces types de dimensions, lors de sa formation, il a peu des choses. Après, il va être confronté donc quotidiennement. Ouais. Et là, il a effectivement, il est face à ce que, notamment en discutant avec Gabriel Lecomte Ménez, donc face à une incertitude qui est très, très très importante. Donc, comment faire face à ces types de situations? Comment je peux traiter ces types des problématiques, des situations qui me sont présentées donc par ma patiente ou mon patient, et comment agir? Et c'est là où on voit qu'en fait les dialogues entre par exemple médecin traitant, médecin du travail, médecin conseil, il est pratiquement nul en fait. Mmh. C'est très peu des relations, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ou certains donc à certains moments vont dire bon bah, là c'est une question de médecin du travail, donc faites avec le médecin du travail, donc ils renvoient un tout petit peu rapidement donc cette question, mais ça illustre en fait les malaises qu'ils peuvent sentir justement les médecins traitants là en l'occurrence face à certaines situations dont ils n'ont pas de prise en fait. Mmh. Ils n'ont pas de prise, donc c'est particulièrement le cas justement avec les maladies chroniques, hein, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a affaire à un certain nombre de choses qui sont connues, donc on sait très bien quel diagnostic on va faire, quel traitement, et donc ça va rouler. Mais face à ces cas-là, on est face à une incertitude et qui oblige donc le médecin donc à tâtonner, à chercher, voire dans certains cas donc à esquiver la question.
Jorge Muñoz, on va faire une pause musicale. On va écouter Nucléaire du groupe Odezen, qui annonce tout à fait très bien notre deuxième partie d'émission avec vous.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires, au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille, un jour sur deux. Le temps qui passe, sans ton visage, c'est pas heureux. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec le feu. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux. Et les nuages qui scindent le ciel, un peu. Le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu. Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel vieux. Tu me ramènes quand je déraille les jours heureux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas du jeu. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le feu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec les dieux. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat mieux. Et les nuages qui scindent le ciel en deux. Le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas peu. Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas de bleu.
À l'instant, c'était O2N avec le titre Nucléaire. Vous écoutez Canal B et aujourd'hui dans Chercheurs en ville, votre émission consacrée à la recherche scientifique, nous recevons Jorge Muñoz, sociologue du travail, maître de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale, pour parler travail et santé. En première partie d'émission, il était question d'arrêt de travail avec un Finistère champion en la matière. Et après avoir évoqué la classification des problèmes de santé, les conséquences des mutations du monde du travail sur la santé, ce qui se joue également du côté du médecin et de l'assuré lors d'un arrêt de travail, dernier questionnement à présent sur le sujet pour comprendre si le genre semble impacter la prescription d'un arrêt de travail. Puis, direction l'île Longue, en rade de Brest, dans le Finistère, pour découvrir les premiers éléments de l'étude menée par notre invité, toujours en lien avec la santé au travail. Il a mené des entretiens avec 72 anciens salariés du civil qui ont travaillé sur cette base de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français.
Jorge Muñoz, est-ce que les femmes médecins octroient plus ou moins d'arrêt de travail que leurs confrères?
Alors c'était une bonne question parce que quand on a commencé à faire les premières exploitations statistiques, avec notre collègue donc la science maladie Delphine Briand et puis avec mes deux collègues Hervé Guyon et puis Marie-Audrey Sanciasson, on a constaté dans un premier temps qu'effectivement, quand on regardait les femmes paraissaient plus prescrire plus d'arrêts. Mais la question qu'il faut se poser toujours dans ces cas-là, s'il n'y a pas justement une autre variable cachée derrière qui joue là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a constaté en fait? C'est qu'en faisant une série de tests statistiques, sur l'âge, sur le sexe, sur les lieux d'exercice et le médecin, etc. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que ce qui jouait le plus, c'était bien l'âge. Donc, plus que les genres. Sachant que les femmes médecins, en moyenne, sont plus jeunes que les hommes médecins. Parce que depuis déjà une bonne décennie, on a dans les études médicales la part des femmes qui a augmenté, et puis celles qui s'y titularisent sont un tout petit peu plus nombreuses que les hommes. Et donc, par conséquent, ils sont plus jeunes. Donc, ce n'est pas tellement le fait d'être femme ou homme, c'est le fait qu'ils sont plus jeunes. Donc, c'est les plus jeunes qui, effectivement, prescrivent moins d'arrêts. Que les plus anciens.
Et alors, autre question sur le genre, est-ce que les femmes, et là encore, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à travail égal, à âge égal, etc., et à territoire égal, est-ce que les femmes ont plus recours que les hommes aux arrêts de travail? Je dis ça parce que c'est aussi un lieu commun qui circule. Et peut-être aussi, ma question est-elle l'occasion de dire un mot des arrêts de travail liés aux enfants malades? Qui introduisent peut-être aussi un biais de genre.
Oui. Alors, sur cette question-là, c'était de la part de la caisse d'assurance maladie. Et l'assurance maladie, hein, pas simplement au niveau du Finistérien, c'est un constat qui s'est fait au niveau régional également, qui tourne autour, effectivement, donc, des arrêts des femmes. Alors, est-ce qu'il y en a. Il y a plusieurs choses dans ces phénomènes, en fait. Premièrement, donc, il y a une demande de l'assurance maladie concernant les arrêts, en fait, pour congé maternité. Parce que effectivement, donc en Bretagne, donc les femmes prennent des arrêts donc bien avant la date légale et ils prolongent après la date légale. Alors,
c'est une particularité bretonne.
Pas exclusivement bretonne. Hein, on les retrouve aussi dans d'autres régions de la France. Mais nous, dans notre étude, donc on a préféré donc écarter d'analyser ça finement parce que justement, comme Christian Lebar vient de l'évoquer, ça pose la question donc d'une approche donc du genre, donc qu'il faut avoir un peu plus fouillé et de manière plus précise sur cette question-là. Deuxièmement, donc toujours se relier à ça. Par contre, ce qu'on a pu dire, donc un peu dans les rapports, quand tout à l'heure je vous parlais des profils des assurés, notamment dans les premiers profils, qu'il y a plus de femmes par rapport aux seconds donc que d'hommes, on a constaté que parmi ces femmes là qui avaient pris donc des arrêts, on voyait pas tellement la question des enfants, même s'il intervenait de manière très claire aussi dans les effets que ça pouvait avoir justement dans la gestion quotidienne pour l'école, pour les chercher, etc. Donc ça apparaît très clairement ça. En revanche, ce qu'on voyait aussi, c'est des femmes qui prenaient des arrêts de maladie alors qu'elles auraient pu faire des déclarations, par exemple, de maladie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la littérature est connu, qu'effectivement, donc, on constate pourquoi il y a plus d'hommes qui déclarent des maladies professionnelles, etc., dans certains secteurs. Il y a une sous-déclaration, notamment du côté des femmes, donc, qui pourraient donc, accéder.
Et pourquoi ?
Alors, parce que, en fait, les traitements en fait, qui vont être faits de certaines maladies professionnelles, l'action du travail, donc, surtout pour les maladies professionnelles particulièrement, on partit au principe que ce sont des affections qui sont plus masculines et que seulement les hommes, entre guillemets, peuvent les avoir. Hein. Alors que, si vous prenez les troubles musculosquelettiques, hein, vous avez certains secteurs d'activité qui est fort pourvoyeuse donc, des main-d'œuvre féminines. On va voir, bien sûr, des déclarations des troubles des TMS, donc troubles musculosquelettiques.
Lesquels secteurs
Vous prenez l'agroalimentaire. Oui, donc, par exemple, vous avez dans certaines activités. Donc, si vous prenez, par exemple, les abattoirs, quand vous regardez à l'intérieur de l'abattoir, les hommes et les femmes, ils ne sont pas mis dans les mêmes postes, donc des travails. Donc, vous avez déjà une division donc, sexuelle des tâches qui est faite, mais pour autant, vous n'avez pas à voir de l'autre côté donc, les mêmes types de déclaration, c'est-à-dire que les femmes vont utiliser avoir recours plus à l'arrêt maladie classique, court, qui se prolonge, etc. Alors que l'homme, donc, vous passez. Et donc là, il y a comme une autocensure, en fait, qui est faite de ce type de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu pointer aussi dans l'étude. Oui.
C'est peut-être un peu osé comme lien, mais ce côté autocensure, est-ce que vous l'avez aussi d'une manière ou d'une autre constaté pour une autre de vos recherches sur les travailleurs du nucléaire, les ouvriers de l'île longue, leur rapport à la maladie ou pas, au risque, aux irradiations. Racontez-nous un peu, parlez-nous de cette enquête que vous venez d'achever, Jorge Muñoz, s'il vous plaît.
Alors, l'étude est en cours. Et actuellement, donc, c'est une étude en fait à deux volets, un volet qualitatif, donc exploratoire, qui a consisté à rencontrer donc concrètement à peu près 72 personnes, donc un entretien collectif ou individuel, anciens salariés donc des Lilles Longues, et plus particulièrement des personnes qui travaillaient dans un atelier qui s'appelle de la pyrotechnie. Donc je vais essayer d'être synthétique. Bon, l'île Longue, tout le monde le sait.
Non, tout le monde ne sait pas.
D'accord. Bon, l'île Longue, en fait, c'est la base donc, stratégique des sous-marins nucléaires porteurs d'engins, donc des missiles nucléaires pour la France. Donc c'est une base donc, stratégique extrêmement importante donc, pour la défense et la dissuasion française, dans lesquelles donc, on retrouve des sous-marins nucléaires, donc avec des réacteurs nucléaires et des missiles avec des têtes nucléaires. Et par conséquent, donc on a l'île Longue, il y a une série d'activités qui sont...
L'île Longue, presqu'île de Crozon.
Exactement.
Dans le Finistère.
Dans la rade de Brest. Donc, quand on est à Brest, l'île-longue, on la regarde juste en face. Donc, et dans cette île-longue, donc, vous avez une série d'ateliers dans lesquels, pour de manière résumée, on monte, on fait la maintenance donc, de ces missiles qui sont ensuite embarqués, comme on dit, donc, dans les sous-marins qui partent enfin, à tour des rôles, donc faire un petit tour quelque part dans les mondes et qui sont prêts donc à lancer ces missiles sous l'ordre donc du président de la République. Et il se trouve que en fait jusqu'aux années 1996 donc plus précis, un des ateliers donc l'atelier justement de la pyrotechnie de l'île Longue pour des raisons justement qu'on est en train d'étudier ne bénéficie pas des mesures donc des dosimétries classiques qu'on peut observer donc dans les secteurs du nucléaire. Et l'étude justement porte donc sur le fait déjà de connaître un tout petit peu leurs conditions de travail, leur parcours professionnel et puis bien sûr s'intéresser à deux choses, au mode d'exposition, pas seulement du nucléaire d'ailleurs, mais également aussi au fait de savoir quelle prise en charge et dans quel état de santé se retrouve actuellement. Alors pour répondre à la question de l'invisibilité donc, que vous posiez, bien sûr, il y a la question de l'information, de ne pas avoir pris des mesures à un moment donné. Mais on n'est pas n'importe où. On est à l'île Longue, on est à la dissuasion française, on est avec des salariés qui avaient des conditions d'emploi extrêmement favorables. Donc, ce n'est pas des sous-traitants, c'est des ouvriers d'État qui avaient un bon salaire, qui avaient des qualifications parfois très élevées aussi, très reconnues. Et c'est des personnes qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont senties donc, trahies. Et qui parfois se retrouvent dans une situation un peu ambivalente quand ils décrivent ça. C'est-à-dire
trahis, ils se sont sentis trahis.
Certains manifestent très clairement ces sentiments oui, des trahisons, en fait, dès qu'on leur a menti.
On travaillait à côté des têtes nucléaires, comme ça, toute la journée, comme si la chaise, là, c'était une tête nucléaire, bah, sans aucun moyen de protection. Et pour cause, parce qu'on nous disait que l'enveloppe, en fait, empêchait tous les rayonnements de sortir. Donc nous, bah, on faisait confiance, on était quelque part, on a été un peu naïfs quand même, oui.
Vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Bretagne en mai 2015.
On leur a menti sur les risques, c'est ça que vous voulez dire ?
Sur les risques, sur les faits que, justement, ces têtes, hein, donc on les crachait pas, pour utiliser l'expression qu'ils emploient. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient dans l'atelier pour monter le missile, donc, et notamment à la partie haute, donc, où il y a les ogives, les têtes, ça ne les crachait pas. Donc il n'y avait pas, en fait, des radiations, en l'occurrence, ce qui... En fait, c'était le cas, en fait. Ça a craché. Donc, il y a ce sentiment des trahisons, mais qui est mêlé aussi, il faut voir. Hein, donc, c'est des personnes qui, comme je vous disais, ont fait des carrières quand même. Hein, ont travaillé pendant toute cette période-là, donc ce qu'on appelle, on appelait l'arsenal à Brest. Et deuxièmement, pour la dissuasion. Et donc, c'était quelque chose d'assez. C'était prestigieux, donc, disons. Donc, c'était quand même quelque chose pour la défense nationale. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sentiment un peu ambivalent.
Bien sûr.
Mais ça veut dire qu'on constate des pathologies quelques décennies après ?
Alors, effectivement, donc, à partir de la fin des années 90, il y a eu une série, début des années 2000 surtout, ça commençait, une série des décès, certains foudroyants, donc certaines personnes qui avaient autour de la cinquantaine, qui sont morts pour leucémie, par exemple, hein, plusieurs d'entre elles, c'est-à-dire une bonne douzaine, donc, ont été reconnues donc, au titre professionnel, donc liées justement aux expositions. Hein, mais d'autres cancers aussi sont apparus dans cette population et qui ont nécessité donc, actuellement des enquêtes qui sont faites et des recours donc, devant les tribunaux pour la reconnaissance. Quoi. Alors, ces décès, pour la plupart, ça concerne des ouvriers qui travaillaient, j'insiste, donc, notamment à la pyrotechnie, hein, donc, qui était un atelier jusqu'à 1996. Qui n'avaient pas donc, les mesures classiques que l'on observe donc, dans les milieux nucléaires. En revanche, il y avait d'autres espaces, des travaux donc, à l'île Longue, hein, notamment ce qu'on appelle les montages des têtes nucléaires, c'est-à-dire quand on prend donc, la charge nucléaire et qu'on les met dans les têtes. Là, c'était fait par des personnels du CEA. Eux avaient de la tosimétrie et des équipements donc, également. Et vous avez, par exemple, les chaudronniers et appareilleurs et entre autres qui s'occupaient du réacteur nucléaire de sous-marin. Où là, pareil, ils avaient des dosimètres, etc. Donc c'est entre les deux, pour schématiser un tout petit peu, qui, entre guillemets, il n'y avait rien.
Jusqu'en 96.
Jusqu'en 96, oui. Jusqu'en 96. Et donc l'étude vise à faire un recensement donc, de cette population pour avoir une idée, comme je vous disais tout à l'heure, de leurs conditions de travail, de leur parcours professionnel, de leur état de santé actuel et s'ils bénéficient ou pas d'un dispositif qui s'appelle suivi post-professionnel, qui est normalement ouvert depuis début des années 90 à toute personne qui est exposée à un risque nucléaire, chimique, amiante ou autre.
Juste une précision avant de passer la parole à Christian. Vous avez travaillé sur cette étude, vous travaillez avec le ministère de la Défense ?
Non. non. L'étude porte justement sur les anciens salariés retraités civils. Donc, pour les militaires, oui, ça, il conviendrait donc, bien sûr, de faire une démarche un peu similaire. Mais il faut savoir que la France, depuis peu, en fait, reconnaît un peu les expositions aux armes nucléaires. Ouais. Et vous avez toute la problématique aussi des essais nucléaires en Polynésie et en Algérie. Les rapports qui ont été rendus fin 2018 donc, par la sénatrice de la Polynésie, donc justement, pour réfléchir sur un mode d'indemnisation des victimes civiles et militaires exposées à ces radiations. Donc la France, elle est, par rapport à des pays comme les États-Unis, elle est, bon, on va le dire, assez en retard donc, par rapport à ce type de questions.
Christian ?
Oui, peut-être pour ouvrir la dernière partie de notre échange, j'avais envie de vous interroger sur le statut du chercheur dans tous ces travaux. Alors ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la perspective pluridisciplinaire, hein, travailler avec des médecins, travailler la perspective quantitative aussi, après tout à ce micro, on n'est pas si fréquemment que ça confronté à des gens qui utilisent des variables à partir des années en composantes factorielles et qui essaient d'hierarchiser les variables. Ma question, c'est aussi celle de la place du sociologue dans la cité. Vous travaillez avec des institutions publiques, caisse primaire d'assurance maladie. Vous accompagnez des débats publics quand même très, très, très importants sur le nucléaire. Est-ce que le chercheur peut être un peu lanceur d'alerte sur ces choses-là? Je pense à un film absolument magnifique qui s'appelait La Centrale, qui est sorti il y a quelques années, d'après, je crois, un documentaire, un témoignage écrit, et qui montrait la façon dont les sous-traitants dans les centrales nucléaires étaient, si je dis sacrifiés, c'est un peu excessif, mais enfin en tout cas étaient utilisés dans des conditions, on leur faisait faire le sale boulot quoi, par rapport aux salariés standards qui eux étaient bien davantage protégés. Donc voilà, quelle place pour le sociologue dans ces configurations-là?
Alors, quelle place, pardon, du sociologue? Et si on parle donc de l'étude pour l'assurance maladie, en tout cas, ma position a toujours été celle-ci. Hein, il s'agit effectivement d'une demande qu'on qualifie en sociologie de demande sociale. Hein, donc, en l'occurrence ici, émanant donc d'un acteur public qui est une caisse primaire donc d'assurance maladie, mais qui s'inscrit dans une politique nationale avec des enjeux quand même majeurs.
Et oui, des enjeux, y compris politiques.
Tout à fait. Tout à fait. Et sur ce type de questions, donc moi, en tout cas, ça me paraît intéressant. Alors, il y avait bien sûr un enjeu toujours la question quelle est la liberté qui va avoir un peu les chercheurs dans ces relations-là. Dans les cas, en l'occurrence, on a eu toute liberté, en fait, d'y travailler. Il y a eu des limites, bien sûr. Par exemple, les données de l'assurance maladie, c'est pas des données épidémiologiques, au sens où ils résultent d'une étude épidémiologique, c'est des données qui résultent d'un découpage administratif de l'assurance maladie. Donc, mais bon, on peut déconstruire ça et dire des choses. Mais donc notre position, effectivement, a été de démontrer bien notre indépendance par rapport au mode d'approche qu'on a adopté, par rapport aux résultats. Et sur ces points-là, on a conservé tout au long donc, du travail cette autonomie.
Et sur le nucléaire, alors ?
Alors, sur les nucléaires, là, on a affaire quand même à une thématique pour les éléments que j'évoquais tout à l'heure qui sont délicats. J'ai informé par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes navals, qui étaient avant l'Arsenal, qui était la DSN, qui était la DSN-S, et qui aujourd'hui s'appelle groupe naval, ça change les statuts, donc c'était privé, et qui est au courant de l'étude, non pas pour les réaliser auprès des salariés actuellement donc civils, hein, toujours, donc des groupes navals, hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de toute façon financiers ni humains pour les faire. Donc, mais au moins d'informer. Donc, c'est une thématique qui est difficile parce qu'il y a un certain nombre d'informations auxquelles on ne peut pas avoir accès, donc, parce que c'est délicat. Donc c'est fragile.
Lesquels, par exemple ?
Par exemple, avoir une idée claire, parce que l'on sait qu'il y a eu une enquête en 1996 suite au constat donc, des radiations qui a été fait par le ministère de la Défense, mais c'est une enquête dont le résultat reste secret défense. Donc et je sais que par ailleurs, donc, des collectifs localement et au niveau national mènent ils luttent devant les tribunaux pour essayer d'obtenir cette enquête. Mais ça, c'est quelque chose auquel je peux pas avoir accès.
Mais votre travail, c'est un contrat de recherche ou c'est votre initiative ?
Alors c'est en fait l'histoire de cette étude. Donc ça résulte en fait, comment dire, entre guillemets, d'un concours des circonstances, on va dire. Vous disiez donc que participe à des débats publics, notamment localement, hein, et il m'est arrivé plusieurs fois d'animer des débats autour des, par exemple, de documentaires qui parlent du travail. Et dans ces circonstances, j'ai fait connaissance donc, d'un groupe, d'un collectif, donc d'anciens salariés de l'Île-Longue, qui se nomme les Irradiés de l'Île-Longue, donc, et qui j'ai découvert, donc on fait part, donc, il y a quelques années déjà, donc, de cette situation. Et ça a donc aiguisé ma curiosité, donc, comme sociologue, donc, pour comprendre un tout petit peu ces processus, et comment se fait-il que ça soit plus public, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais également aussi, d'une certaine manière, oui, pourquoi pas, donc des citoyens. Donc, comment se fait-il qu'avec le dispositif actuel, on ne puisse pas avancer là-dessus. Et donc, à partir de là, j'ai monté donc, un projet, donc j'ai l'ai présenté à différents collègues, sociologues, médecins, juristes, donc, pour travailler autour de cette exposition donc des irradiés, mais dans la visée était vraiment de réaliser une première étude hein, donc des recensements des anciens salariés comme je disais tout à l'heure pour essayer d'au moins de faire un tableau on va dire à un instant T donc de la situation de ces personnes plusieurs décennies après quoi et là, l'enjeu pour moi aussi, c'est pas simplement parce que c'est pas l'objectif de dire voici le lien des causes et effets, parce que là il faudrait quelque chose d'un peu plus fouillé, hein, mais de faire un tableau, de dire voilà, sur les à peu près 150 personnes qu'on est en train de contacter actuellement, voici les annonces, voici à quoi ils ont été exposés, voici l'état de santé actuel, voici de quoi ils souffrent, etc. Donc, mais parmi donc, ces résultats, il va falloir aussi dire que, par exemple, il se peut qu'on retrouve des personnes qui disent, déclarent être exposées, qu'en fait, dans les faits, quand on regarde donc, l'analyse statistique, c'est pas tellement le cas. Donc il va falloir aussi, en tout cas de mon point de vue, avec donc, ces anciens salariés, que je puisse justement un tout petit peu leur faire comprendre que la réalité peut être aussi un peu plus complexe. Donc ce que l'on pense. Et ça, même contre mon corps défendant, je peux peut-être penser très positivement à ça, mais bon, il faut quand même accepter la réalité.
Jorge Muñoz, merci. L'émission s'achève. Juste avant, dites-nous où et quand on peut, pour le grand public, avoir accès à votre étude sur les arrêts de travail et sur le nucléaire.
Alors, sous les arrêts de travail, donc, l'étude va être déjà publiée sur la page du laboratoire et sur ma page personnelle donc, à l'UBO. Donc, si on tape Laber, donc L-A-B-E-R-S, donc, on met Muñoz, donc on va trouver donc, facilement sur les Google. Donc,
Laber, laboratoire d'études et de recherche en sociologie.
Voilà. Et donc, dès début de la semaine prochaine, également, il y aura un premier article aussi, parce qu'on a été interviewé avec Gabriel Lecomte Ménès et moi-même par la revue Santé au Travail, donc un article qui va sortir prochainement justement sur les arrêts de travail. Et moi-même et Gabriel, donc on va présenter une série de communications dans l'année donc, qui vient, donc au colloque, au congrès de la SELF, que ce sont les ergonomes qui sont intéressés donc, à ça, à l'ISLF, à Nantes, en fin d'année, à l'AFS, donc à l'Association française de sociologie, où également on va présenter une communication et on prépare un article. Mais l'étude donc, elle sera accessible, et avec la Caisse Première du Finistère, on va organiser une série aussi des journées pour essayer de diffuser des conférences pour valoriser le travail, parce que c'est un travail vraiment aussi collaboratif. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé notamment de l'assurance maladie, Delphine Briand, statisticienne de la Caisse, qui ont fait un énorme travail d'accès pour nous permettre justement de mener à bien ce travail. Ça, c'est pour l'assurance maladie. Pour les nucléaires, les longues, c'était une étude qui est en cours. Actuellement, donc, ça se termine la partie questionnaire, mais il va falloir donc, traiter toutes ces données. Donc, les résultats définitifs et stabilisés, je pense qu'on les aura en septembre-octobre de cette année, donc, notamment.
D'accord.
En juin, peut-être un petit compte-rendu.
Merci beaucoup, on vous dit à bientôt.
À bientôt,
merci
à vous.
Merci à Christian Lebar et à notre réalisatrice Lucie Louapre. Et rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Chercheurs en ville.